On est lundi, il est 12h30 et vous écoutez France Culture. C'est l'heure des informations avec Antoine Mercier. Bonjour Antoine.
Bonjour Caroline, bonjour à tous. L'Autriche attend toujours le dépouillement du vote par correspondance pour la présidentielle pour dégager ce candidat, le candidat qui sera élu, candidat d'extrême droite Norbert Hofer ou l'écologiste Alexander Van der Bellen. Dernière tendance dans un petit instant avec Ludovic Piétenu à Vienne. Le Parlement grec adopte de nouvelles mesures de rigueur et pour le Premier ministre Tsipras, c'est la première fois que des sacrifices semblent avoir une chance de payer. Correspondance, explication avec Angélique Kourounis. Les forces irakiennes, les milices alliées se lancent à la reconquête de Fallujah, bastion depuis plus de deux ans maintenant du groupe État islamique en Irak donc. Lui qui revendique par ailleurs sept explosions simultanées de voitures piégées en Syrie. Bilan plus de 100 morts dans les fiefs du régime suivi de ce conflit avec Eric Biegala. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou rejette comme prévu le projet français de conférence internationale pour tenter de relancer l'effort de paix avec les Palestiniens et il propose à Paris d'accueillir plutôt des négociations bilatérales entre Israël et palestiniens. La situation en France, 5 des 8 raffineries à l'arrêt ou en cours d'arrêt ce matin en raison des actions de protestation contre le projet de loi travail. Michel Sapin juge ces blocages non légitimes. Il déclare que le gouvernement va utiliser tous les instruments à sa disposition pour les faire cesser. Commentaire sur le conflit avec Annabelle Grelier et puis la fusion, méga fusion, Bayer-Monsanto, le géant allemand de la chimie, met 62 milliards de dollars sur la table pour racheter le fabricant américain de ce OGM et de pesticides. Les explications d'Hélène Terzian dans cette édition. L'invité du journal Florian Humez, porte-parole d'un think tank de jeunes pro-Macron. Dans la dernière partie, Caroline.
Eh bien, continuation de cette journée spéciale de France Culture. Comment retrouver le désir de politique? Nous sommes en partenariat avec le journal La Croix. Un peu de recul dans cette dernière partie pour observer les choses depuis un pays voisin, l'Italie, et chercher peut-être un nouvel espoir dans la voie européenne. Nous recevrons Sandro Gozzi et Maëlle de Calan.
Donc ça se jouera sans doute à quelques milliers de voix. Les scrutateurs autrichiens sont en train de dépouiller un par un ces votes par correspondance qui vont déterminer le gagnant de la présidentielle. Résultat du scrutin pour l'heure, donc avant le dépouillement de ces votes par correspondance, était à l'avantage du candidat d'extrême droite, Norbert Hofer, qui a recueilli 52% des voix contre 48% à son adversaire écologiste, donc Alexander Van der Bellen. Mais il reste donc à dépouiller ces fameux votes par procuration, qui sont très nombreux, plus de 10% dit-on des votants, et qui sont supposés être plutôt favorables au candidat écologiste Ludovic Piétenu. Bonjour.
Bonjour Antoine.
Résultat donc qui s'annonce très serré. Est-ce qu'on a déjà quelques indications sur ce dépouillement des votes par correspondance et est-ce que la différence suffira-t-elle à contrebalancer le vote d'hier ?
Aucune indication, Antoine, sur ce dépouillement en cours. C'est un gros point d'interrogation comme celui que l'on retrouve ce matin à la une du quotidien Courir. La seule affirmation possible depuis hier soir, c'est celle d'une Autriche politiquement déchirée. On parle ici depuis cette nuit de pays divisé avec ce 50-50 qui est en fait la projection finale. Autant dire qu'il est impossible de dire de quel côté penchera la balance en fin de journée. Même dans les deux camps, on ne sait pas dire qui va l'emporter, hormis bien sûr quelques formules optimiste et performative du type « on va gagner ». Hier soir, par exemple, un cadre du Parti de la Liberté, Johannes Hübner, pariait sur le fait qu'il n'y aurait pas plus de 5 à 10 000 voix d'écart. Dans l'autre camp, chez les Verts, un jeune diplômé de Sciences Po, Vienne et Paris, Moritz, parlait de 3 ou 4 000 voix de différence. Il me disait que ce système de vote par correspondance existait depuis une dizaine d'années en Autriche et qu'il avait traditionnellement été, en effet, plutôt favorable au Parti social-démocrate et au Vert.
Est-ce que vous pouvez nous donner quand même l'heure de l'annonce officielle où on peut attendre le résultat définitif ?
Alors les fonctionnaires qui récoltent les résultats ont commencé le travail à 9h ce matin, pas de résultat définitif avant 17h, assurément dans une fourchette allant de 17 à 19h, ce sera la fin du suspense ce soir.
Merci beaucoup. Ludovic Piétenu, donc à Vienne, le niveau de l'extrême droite en Europe est préoccupant, affirmait ce matin le commissaire européen, Pierre Moscovici lors d'une conférence de presse à Paris. Face au populisme et l'extrême droite, nous avons besoin d'Europe, disait encore M. Moscovici. Parmi les réactions en France, celle de Florian Philippot, vice-président du Front National, qui voit dans cette présidentielle la preuve qu'il peut y avoir une majorité pour, dit-il, un candidat patriote. Nicolas Sarkozy estimait hier soir que ce qui se passe en Autriche pourrait arriver en France. Bonjour François Hernenwein.
Bonjour.
Vous êtes rédacteur en chef au journal La Croix, avec lequel on est associé. Donc aujourd'hui, pour cette question du renouveau en politique, au moment où on parle donc de désir, retrouver le désir de politique, les Autrichiens votent massivement et la moitié d'entre eux, donc en tout cas, se prononcent pour un candidat d'extrême droite. Est-ce qu'il y a un désir d'extrême droite en Europe, selon vous ?
Si on regarde le paysage européen, on voit bien qu'il est quand même très chahuté. Dans un certain nombre de pays, on a des poussées populistes colorées effectivement de préoccupations d'extrême droite. Mais enfin, ces phénomènes, il faut regarder le paysage européen tel qu'il est, les tensions qui traversent l'ensemble du continent, la pression des réfugiés ont des conséquences sur la vie des gens. Mais je voudrais raconter une anecdote parce que je la trouve assez intéressante. Je suis allé en Autriche à l'automne. Au début, enfin, quand commençait à se déployer la crise migratoire, la pression était au sud de l'Autriche, et j'ai été frappé dans des villages du Vorarlberg, des petites bourgades de 250 habitants accueillaient 25 réfugiés, c'est-à-dire 10% de la population, dans un climat détendu, dans un très bon esprit, et tout le monde s'investissait dans le mouvement. Donc les tensions sont venues plus tard. Et là, on en revient à la question posée par Pierre Moscovici. Ce qui se passe, c'est pas qu'il y a trop d'Europe, comme disent tous les populistes à travers l'Europe, sur des revendications nationales, identitaires et fermées, mais pas assez d'Europe, pas assez de créativité en Europe pour faire face aux défis qui traversent l'ensemble du continent.
Voilà, ça sera sans doute un des thèmes, effectivement, de la deuxième partie. François Hernenwein, merci. On vous retrouve tout à l'heure aussi avec, pour la séquence interview avec Florian Humez, le porte-parole d'un think tank de jeunes pro-Macron.
À la veille d'un Eurogroupe consacré à la Grèce, Pierre Moscovici se déclare confiant sur la perspective d'un accord entre Athènes et ses créanciers.
Oui, il y aura demain une réunion importante des ministres des Finances de la zone euro sur ce sujet de la Grèce. Athènes espère maintenant convaincre ses créanciers de débloquer enfin une nouvelle tranche d'aide et puis d'entamer ses négociations sur l'allègement de la dette. Hier, le Parlement grec a donc adopté un projet de loi qui prévoit un mécanisme de correction automatique en cas de dérapage budgétaire, mais aussi des mesures supplémentaires pour accélérer les privatisations. Augmenter encore les taxes indirectes. Et le Premier ministre Tsipras qui estime que c'est la première fois quand même que ces sacrifices, nouveaux sacrifices, pourraient avoir une chance de payer, c'est son expression. Et ça n'a pas vraiment convaincu tout le monde, Angélique Coronis.
Non, loin s'en faut, puisque le Syriza, le parti du Premier ministre, a perdu une députée des plus influentes dans la bataille, Vassiliki Katrivanou. Elle a refusé de voter en faveur de certains des articles du texte et ensuite démissionné du Syriza, le parti de la gauche au pouvoir, évoquant une profonde impasse politique existentielle. Nous, Syriza, a écrit Vassiliki Katrivanou sur sa page Facebook, mettons en œuvre des mesures et des politiques qui vont contre le cœur de nos valeurs et de notre politique, mais je ne vois aucune alternative fiable, c'est pourquoi je démissionne. La presse et les réseaux sociaux font état de très grosses pressions au sein du Syriza, plus divisé que jamais, pour la pousser à la démission. Le Premier ministre Alexis Tsipras refusant officiellement de l'exclure lui-même, car au Syriza, a-t-il dit, on n'exclut pas les opposants. La Grèce a adopté ce dimanche de nouvelles mesures de rigueur réclamées par les créanciers comme condition pour un versement de la prochaine tranche de prêt avant une réunion de l'Eurogroupe demain. Une scène que les Grecs vivent depuis maintenant 5 ans. 10 000 personnes selon la police, le double au moins selon les syndicats, ont manifesté à Athènes devant le Parlement et tous les transports publics étaient bloqués hier dans la capitale.
Toujours à propos de l'Europe, la Commission européenne doit rendre public un avis en forme d'avertissement au gouvernement conservateur polonais dans le cadre d'une procédure inédite qui est déclenchée pour exprimer ses inquiétudes sur le respect de l'état de droit par un pays membre donc de l'Union européenne. Et puis des nouvelles prévisions économiques assez anxiogènes en cas de Brexit. Le Trésor britannique prévient qu'une récession s'abattrait sur le pays en cas de sortie de l'Union européenne. Nouvelle prévision donc qui nourrit l'argumentaire du Premier ministre Cameron, mais aussi la colère des défenseurs du Brexit.
L'actualité française, mise en garde ce matin du ministre des Finances Michel Sapin à propos des actions de blocage des raffineries et des dépôts de carburant. Ils ne sont pas légitimes, a-t-il dit. Le gouvernement utilisera tous les instruments à sa disposition pour les faire cesser.
Il y a plusieurs sites, principalement dans le nord-ouest de la France, qui sont bloqués depuis plusieurs jours. Au total, 5 des 8 raffineries françaises sont en grève, arrêtées ou en cours d'arrêt. C'est ce qu'affirme le secrétaire fédéral de la branche pétrole de la CGT. Interrogé sur le risque de pénurie, il qualifie d'ailleurs de virtuel les quelques 90 jours de stock stratégique qui ont été avancés par le secrétaire d'État au transport Alain Vidalis pour dire qu'il n'y avait pas de risque de pénurie. Annabelle Grelier, bonjour.
Bonjour Antoine.
Est-ce que la CGT a l'intention et les moyens peut-être aussi de bloquer le pays ?
La CGT est majoritaire dans la branche pétrole, donc on le voit, la mobilisation et la détermination des grévistes perturbent véritablement l'approvisionnement. Malgré l'intervention des forces de l'ordre vendredi pour lever les blocages sur certains sites, les grévistes empêchaient toujours la reprise des activités dans certaines unités des raffineries de pétrole, en Seine-Maritime, en Loire-Atlantique, dans le Rhône, et d'autres tournent au ralenti. Pour l'heure, 4 raffineries sur 8 sont bloquées, et ce matin, le responsable de la CGT pétrole affirme que 2 raffineries supplémentaires sont en phase d'arrêt. Alors même si le secrétaire d'État au transport, Alain Vidalis, affirme qu'il n'y a pas de risque de pénurie, que la France dispose de stocks stratégiques de carburant, 3 mois selon l'Agence internationale de l'énergie, ce sont des prévisions théoriques, parce que stock ou pas stock, il faut pouvoir y accéder et le transporter. Ces 8 raffineries sont pour la majorité d'entre elles installées à proximité des zones portuaires, d'où l'importance pour la CGT d'étendre son mouvement à d'autres branches professionnelles, les dockers, on l'a vu, et les routiers, là aussi. À noter que si la CGT et Force ouvrière ne représentent que la moitié des salariés du transport routier, sur le terrain, des militants CFDT, CFTC et CFE-CGC participent au mouvement, même si leur centrale n'a pas appelé à manifester contre la loi El Khomri. Avec un premier succès ce week-end face au gouvernement, qui les a assurés de conserver leur régime dérogatoire sur les heures supplémentaires, la mobilisation ne faiblit pas, bien au contraire, et pourrait même convaincre les cheminots, en pleine discussion sur leur statut, de durcir leur mouvement. La détermination des opposants à la loi travail est réelle. Une nouvelle journée de mobilisation nationale est prévue jeudi à l'appel de l'intersyndicale, la CGT, FO, Solidaire, FSU, UNEF, Fidèle et UNEL, avec l'objectif cette fois d'étendre le mouvement aux entreprises.
Annabelle Grelier, merci. Le rapport de l'IGAS sur le centre de recherche Rennais Biotrial, où un essai clinique, on s'en souvient, avait provoqué le décès d'un volontaire en janvier. L'inspection générale des affaires sociales estime donc que le centre et le laboratoire, le centre Biotrial donc, et le laboratoire portugais Bial sont bien responsables de cet incident. Cette responsabilité vaut pour le choix de la dose trop importante administrée aux volontaires, ainsi que du délai de 4 jours qui a été mis en avant d'avertir les autorités.
France Culture, 12h42, suite du journal. Ce serait la plus grosse acquisition d'un groupe étranger par une entreprise allemande. 62 milliards de dollars, soit environ 55 milliards d'euros. C'est le prix payé par le groupe allemand Bayer pour racheter Monsanto, le fabricant américain de semences OGM et de pesticides.
Un géant mondial, donc des pesticides, des engrais, des semences, devraient naître de ce rapprochement entre Bayer, dont les pesticides dits tueurs d'abeilles sont décriés par certains, et aussi Monsanto, donc également fabricant du controversé pesticide Roundup. Alors en avalant Monsanto, Bayer espère réaliser au bout de 3 ans environ 1,5 milliard de dollars d'économies, enregistrer aussi une hausse de son bénéfice par action, 5% la première année, et puis beaucoup plus après, 10% dit-on, les suivantes. Hélène Terzian, il y a là donc une méga fusion dans la chimie.
Oui, l'objectif de ce rachat est donc bien de devenir le leader mondial des pesticides et des engrais. En rachetant Monsanto, le chiffre d'affaires de Bayer passerait alors dans le secteur des semences et pesticides d'un peu plus de 10 milliards à 24 milliards d'euros. En se mariant avec Monsanto, Bayer crée donc un conglomérat, c'est-à-dire que le groupe allemand diversifie non seulement ses activités mais aussi son ancrage géographique. Monsanto est le leader du secteur semencier, très implanté aux États-Unis et en Amérique latine. Bayer est quant à lui très puissant dans le secteur des pesticides et il est très présent en Europe et en Asie. Une opération audacieuse dont on connaissait les rumeurs depuis quelques jours. Le groupe allemand n'aurait pas osé se lancer jusqu'à maintenant. Son nouveau patron, depuis moins d'un mois, Werner Baumann, a pu créer ce déclic. Mais il n'en reste pas moins que l'opération est risquée, d'abord en termes financiers. Pour ce rachat, Bayer devra beaucoup s'endetter, ce que le groupe avait déjà fait il y a 2 ans en rachetant le département de médicaments sans ordonnance de Merck & Co. D'un point de vue stratégique ensuite, via ce rachat, le cœur de Bayer deviendrait donc l'activité liée à l'agrochimie et se concentrerait donc moins sur sa spécialité qui est l'activité pharmaceutique. Or, Monsanto est en ce moment confronté à la question de l'interdiction du glyphosate, son herbicide phare qui pourrait être interdit à la vente pour des effets potentiellement cancérigènes. Et enfin, il y a bien sûr un risque en termes d'image. Monsanto reste la bête noire non seulement des écologistes, mais aussi d'une grande partie de la population.
Hélène Terzian, merci.
L'État islamique revendique ce matin 2 attentats meurtriers dans 2 localités côtières de l'ouest de la Syrie, bastion du régime. Plus de 100 personnes ont été tuées par l'explosion de 7 voitures piégées dans les villes de Tartous et de Djablé, 2 villes à majorité alaouite qui avaient été relativement épargnées par le conflit.
Voilà ce qui se passe donc en Syrie. Et pendant ce temps, le ministre irakien annonce, lui, que la bataille pour la reconquête de Fallujah a commencé, c'est l'annonce qu'il a faite dans la nuit. Les forces irakiennes, les milices alliées aussi, se sont effectivement lancées à la reconquête de cette localité située à 50 km de Bagdad. C'est un bastion, effectivement, depuis 2 ans et demi du groupe État islamique. Bonjour Éric Biégala.
Bonjour Antoine.
Est-ce qu'il faut reprendre donc Fallujah pour ensuite passer à cette offensive annoncé et attendu sur Mossoul?
Alors, on n'a pas forcément besoin de reprendre Fallujah pour prendre Mossoul. Il semble d'ailleurs que les Américains fassent pression sur les Irakiens pour qu'ils préparent plus expressément une offensive sur Mossoul plutôt que sur Fallujah. Reste que Fallujah ne peut pas rester en l'état, c'est-à-dire, vous l'avez dit, un bastion de la révolte sunnite contre le pouvoir chiite irakien. La première ville à être passée sous la coupe des djihadistes, c'était en janvier 2014, 6 mois avant que ceux-ci ne proclament leur califat suite à la prise de Mossoul. Un bastion distant de moins de 50 km à peine de la capitale, Bagdad, et l'une des dernières villes de la grande province d'Al-Anbar, encore sous leur contrôle après la reprise par les Irakiens de Hit en avril et de Rutba la semaine dernière. En termes politiques, l'importance de la reprise de Fallujah ne fait donc absolument aucun doute. En termes de stricte logique militaire, non plus. Il ne servirait pas à grand chose, en effet, de monter une offensive d'importance sur Mossoul, dans le nord de l'Irak, en laissant derrière soi un véritable coin, Fallujah, dont les combattants pourraient facilement rompre les lignes d'approvisionnement d'une armée cantonnée au nord, pour reprendre Mossoul justement. Cela dit, la bataille de Fallujah s'annonce difficile, pas forcément du fait de la puissance de feu dont disposeraient les djihadistes, mais d'une importante présence de civils, contrairement à Ramadi, l'autre grande ville d'Al-Anbar, reprise à l'État islamique à la fin de l'année dernière, mais dans laquelle il ne restait plus que 3 à 4 000 civils quand l'armée irakienne a lancé ses assauts. Fallujah compterait, elle, jusqu'à 80 000 civils dans ses murs. Hier, le pouvoir irakien demandait à ceux-ci d'évacuer la ville. Une vingtaine de familles s'y seraient essayées dans la soirée. La plupart en ont été empêchées physiquement par les djihadistes.
Éric Biégala, autre attentat suicide de la voiture piégée revendiquée par l'organisation État islamique au Yémen. Au moins 40 morts, une soixantaine de blessés à Aden, dans le sud du pays, dans un centre de recrutement de l'armée. Et puis on l'a appris tout à l'heure, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou rejette, comme c'était prévu, le projet français de conférence internationale pour relancer l'effort de paix avec les Palestiniens. Et il propose à Manuel Valls, propose à Paris d'accueillir plutôt des négociations bilatérales entre Israéliens et Palestiniens. Séquence interview donc avec Florian Humez, porte-parole d'un think tank des Jeunes avec Macron. Bonjour.
Bonjour.
Ça vous va, Jeunes avec Macron ?
Tout à fait, ça me va, oui.
Qu'est-ce qui vous a mis en marche vers ou avec Emmanuel Macron ?
Qu'est-ce qui m'a mis en marche ? D'abord, c'est qu'avec mes 3 autres amis cofondateurs, on est tous issus de mouvements politiques.
Lesquels ?
Le Parti Socialiste, les Jeunes Socialistes et auparavant également pour certains l'UNEF. Force est de constater qu'on a ressenti un décalage entre nos concitoyens et l'action politique. Nous, on le ressentait au niveau des jeunes, puisqu'on était au moment de la loi Macron, lorsqu'on a créé ce mouvement, et on rencontrait sur les réseaux sociaux notamment, pas mal de jeunes qui se reconnaissaient dans ce que faisait Emmanuel Macron, dans son discours réformiste, mais qui n'étaient pas engagés dans les mouvements politiques parce qu'ils ne souhaitaient pas s'encarter dans des mouvements qu'ils jugeaient comme sclérosés.
Alors qu'est-ce que c'est le macronisme ?
Qu'est-ce que c'est le macronisme ? Le macronisme, c'est repenser l'égalité des chances, c'est la théorie des insiders-outsiders, c'est remettre...
Alors attendez, expliquez-nous, donc premier terme.
Insider-outsider ?
Ouais, non, vous avez dit une première chose.
Lutter contre les déterminismes ?
Voilà, lutter contre les déterminismes.
Bah, les déterminismes, ils peuvent être sociaux, ils peuvent être tirer de l'héritage, c'est-à-dire qu'on va, faire en sorte que chacun, où qu'il naisse en France... ou qu'ils naissent dans telle ou telle famille, aient les mêmes chances d'accès à l'information, à la mobilité sociale, à la mobilité géographique, et que l'ascenseur social dans ce pays refonctionne
d'accord.
À nouveau.
Égalité des chances, d'accord. Et ensuite, donc, vous avez dit insider-outsider.
Insider-outsider, ben, c'est ceux qui sont dans le système pour nous, c'est-à-dire ceux qui ont des protections ou qui vivent de par une rente. C'est le cas des notaires, c'est le cas des avocats. Emmanuel Macron a souhaité les réformer. C'est le cas aussi de jeunes qui naissent dans des familles beaucoup plus aisées que d'autres et qui vont avoir accès à des réseaux, tandis que d'autres ne vont pas avoir accès. C'est ceux qui naissent dans des grandes métropoles qui ont accès à un tissu culturel mais beaucoup plus dense.
C'est pas au dépens des insiders quand même.
Non, c'est pas au dépens des insiders. C'est faire en sorte que chacun puisse avoir accès à ce même tissu.
François Hernenwein de La Croix.
Oui, moi j'observe le paysage politique tel qu'il se dessine à gauche et je suis frappé d'une chose. Est-ce que vous êtes posé la question quelle était la différence entre Manuel et Emmanuel ? Qu'est-ce qui faisait que l'un avait votre attention et l'autre moins ?
Bah écoutez, la différence pour moi entre Emmanuel et Emmanuel, elle se résume sur la différence.
On parle de Valls, entre parenthèses.
Valls et Macron.
Manuel Valls et Emmanuel Macron, elle peut se résumer sur la loi travail, à mon avis. La différence entre le traitement de la loi travail et le traitement de la loi Macron. Il y a eu la loi Macron a été une véritable, pour nous en tout cas, aspiration démocratique, grâce notamment à la commission spéciale où il y a eu plus de 8000 amendements déposés, 2000 adoptés, plus de 400 heures de débat. Il faut savoir, pour donner une échelle de valeur, qu'il y a eu plus d'amendements déposés que pour la loi du mariage pour tous. Donc c'est assez significatif et ça a été un véritable exercice démocratique puisque Emmanuel Macron a défendu tous les amendements, a repris des amendements qui n'étaient pas suivis au départ grâce au débat parlementaire. Et au contraire, on a eu au moment de la loi travail, et je comprends les blocages qu'il peut y avoir dans le pays, il n'y a pas eu de pédagogie autour de cette loi, et on n'a pas expliqué pourquoi on faisait cette loi et où est-ce qu'on voulait aller avec cette loi.
Mais dans la partie la plus contestée de la loi Macron et qui a été retirée du projet final, il y avait l'histoire du plafonnement des indemnités de licenciement. Cette proposition venait de Bercy, d'Emmanuel Macron.
Elle venait à la base, je crois, plutôt du ministère du Travail sous François Rebsamen.
On va rester sur le sujet de la politique autrement. On jette un coup d'œil sur des élections dont on n'a pas beaucoup parlé, forcément. Ce sont des partielles, législatives partielles, qui se sont déroulées dans les Alpes-Maritimes et le Bas-Rhin. Il n'y a pas eu trop de surprises, puisque les Républicains arrivent en tête dans la première circonscription des Alpes-Maritimes et que le PS arrive dans la seconde, même si c'est le Bas-Rhin. C'est une circonscription généralement qui va à la gauche. Mais au-delà donc de ces grandes tendances qui ne sont pas très significatives, parce qu'il y a eu aussi beaucoup d'abstention, on a noté, Frédéric Seyss, d'autres phénomènes électoraux qui retiennent en tout cas votre attention.
Oui, la droite fortement en tête à Nice, rien de plus normal. Le PS devant dans cette circonscription strasbourgeoise où il est très ancré, rien de surprenant non plus. Et pourtant, si l'on zoome un peu sur les résultats, en particulier des candidats moins en lumière pour ce premier tour, on trouve quelques indicateurs intéressants. Par exemple, dans les Alpes-Maritimes, le Front de Gauche passe devant le Parti Socialiste, 7,5% contre 6,5% pour le PS. Par rapport à 2012, le PS perd 18 points en ce premier tour, quand le Front de Gauche, lui, passe de 4 à 7,5%. Autre résultat intéressant, dans le Bas-Rhin, c'est une circonscription du centre de Strasbourg, on l'a dit, acquise au PS, mais on voit émerger à 5% le candidat d'un mouvement qui se dit citoyen, le mouvement Ma Voix. C'était le premier test électoral pour lui, un mouvement porté à Strasbourg par un ancien d'Europe Écologie Les Verts et par des membres du parti Pirate. Ma Voix fait sensation d'ailleurs en collant des affiches électorales réfléchissantes, autrement dit le citoyen qui passait devant l'affiche se voyait lui-même, et ça colle bien aux principes défendus par ce mouvement, des candidats tirés au sort et qui sont ensuite, s'ils sont élus, ils s'engagent à voter à l'Assemblée nationale comme le leur demande au coup par coup par internet les électeurs de la circonscription. Alors que nous disent ces deux résultats, on ne parle pas là de sondage mais bien de scrutin réel, certes avec leurs particularités locales, il n'empêche le PS souffre dans les urnes, le Front de Gauche progresse mais sans profiter pleinement de cet espace vacant et le mouvement citoyen fait son trou, correspondant sans doute à la demande globale d'une politique autrement, pour le coup, plus horizontale, ils l'ont illustré également par Nuit Debout. Alors attention, tout cela est à relativiser par les chiffres de l'abstention qui sont spectaculaires. Dans les deux cas, elle dépasse 75% d'abstention. Résultat, en Alsace, par exemple, dans cette circonscription, il y avait 64 000 électeurs inscrits. Et le mouvement citoyen qui parvient donc à frôler les 5%, il a obtenu seulement 598 voix.
Effectivement, ça dit beaucoup de choses sur le miroir. Merci beaucoup Frédéric Seyss. Retour vers Florian Humès pour une dernière question obligatoire. Est-ce qu'il faut que Emmanuel Macron se déclare rapidement maintenant s'il veut être candidat en 2017?
Écoutez, ça, il n'y a que lui qui pourrait y répondre.
Mais qu'est-ce que vous en pensez?
Moi, à titre personnel, je le soutiendrai s'il se présente, puisqu'on soutient sa démarche. Sa démarche qui vise aussi à rassembler les citoyens autour de la politique. Je suis totalement d'accord avec ce qui a été dit avant. Vous l'avez dit aussi ce matin, il y a une enquête qui a été faite. Il y a plus que 7% des Français qui font confiance dans les partis politiques pour rénover la politique. Je pense que c'est assez dramatique. Et on le voit aussi dans notre mouvement, il y a 70% des gens qui nous rejoignent qui sont des primo-adhérents en politique. Et ça, je trouve que c'est vraiment intéressant. Il y a tout un mouvement qui se fait au sein de la population et qui est, à mon sens, plutôt rassurant. Les gens ont envie de s'engager. Et en tout cas, si Emmanuel Macron décide de se présenter, nous, on le suivra.
Sandro Gozzi, secrétaire d'État chargé des affaires européennes auprès de la présidence du Conseil des ministres italiens de Matteo Renzi. Est-ce qu'il faut qu'Emmanuel Macron se présente s'il veut avoir une chance pour 2017?
Ah bah c'est à lui à décider, c'est à lui à décider. C'est
vous ne lui conseillez rien?
Non.
Vous êtes proche de lui quand même.
Je le connais bien, je connais bien Manuel et Emmanuel, bon. Je n'ai pas de conseils à donner à deux.
Voilà, on vous retrouve dans une petite seconde pour la dernière partie de la Grande Table. Merci beaucoup Florian Humez d'avoir accepté notre invitation à signaler un dossier sur notre site, le dossier de Catherine Pétillon sur les Civic Tech, ces initiatives numériques au service du renouveau démocratique, vous connaissez ça.
Oui.
L'horizontalité des débats plutôt que la verticalité du pouvoir, la co-construction des décisions, la participation citoyenne, le numérique a donné corps à de nouvelles formes de mobilisation civique. Il change donc les manières d'interagir avec les institutions et les modalités d'implication politique. Il y a aussi un entretien avec le chercheur en sciences politiques qu'on connaît bien, la Grande Table, Loïc Blondiot. La météo, gris, pluvieux sur l'ensemble du pays, ensoleillé sur le sud-est, température 13 à 18 degrés. Et c'est la fin de cette édition réalisée avec Yacine Bouzard. Le prochain journal est à 18h avec Tara Schlegel.